Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ce soir pour des lectures en liberté et la suite du roman de Georges Simenon, Le chien jaune. Maigret cherchait son chapeau et son manteau autour de lui. Le maire ne put que pousser le bouton électrique. « Les vêtements du commissaire, Delphine !» Le silence fut si absolu qu'on entendit le bruit sourd, scandé, du ressac sur les rochers servant de base à la villa. « Vous ne voulez vraiment pas ma voiture ?»« Vraiment ?» Il restait dans l'atmosphère comme des lambeaux de gêne qui ressemblaient aux lambeaux de fumée de tabac s'étirant autour des lampes. Je me demande ce que ça va être demain, l'état d'esprit de la population. Ben, si la mer est belle, du moins aurons-nous les pêcheurs en moins dans les rues, car ils profiteront pour aller poser leur casier. Maigret prit son manteau des mains du maître d'hôtel, tendit sa grosse main. Le maire avait encore des questions à poser, mais il hésitait, à cause de la présence du domestique. Combien de temps croyez-vous qu'il faille désormais pour... L'horloge marquait 1 heure du matin. Ce soir, j'espère que tout sera fini. Si vite ! Malgré ce que vous m'avez dit tout à l'heure, dans ce cas... Vous comptez sur Goyard, à moins que... Il était trop tard. Maigret s'engageait dans l'escalier. Le maire cherchait une dernière phrase à prononcer, il ne trouvait rien qui traduisît son sentiment. « Je suis confus de vous laisser rentrer à pied par ces chemins. » La porte se referma. Maigret était sur la route avec au-dessus de sa tête un beau ciel, aux nuages lourds, qui jouait à passer au plus vite devant la lune. L'air était vif. Le vent venait du large. Sentait le goémon dont on devinait les gros tas noirs sur le sable de la plage. Le commissaire marcha lentement, les mains dans les poches, la pipe aux dents. Il vit de loin, en se retournant, les lumières s'éteindre dans la bibliothèque, puis d'autres qui s'allumaient au second étage, où les rideaux les étouffèrent. Il ne prit pas à travers la ville, mais longea la côte, comme le douanier l'avait fait, s'arrêta un instant à l'angle où l'homme avait été blessé. Tout était calme. Un réverbère, de loin en loin. Concarneau dormait. Quand il arriva sur la place, il vit les baies du café qui étaient encore éclairées et qui troublaient la paix de la nuit de leur halo vénéneux. Il poussa la porte. Un journaliste dictait au téléphone. « On ne sait plus qui soupçonner. Les gens dans les rues se regardent avec angoisse. Peut-être est-ce celui-ci le meurtrier, peut-être celui-là. » Jamais atmosphère de mystère et de peur ne fut si épaisse. Le patron, lugubre, était lui-même à sa caisse. Quand il aperçut le commissaire, il voulut parler. On devinait d'avance ses récriminations. Le café était en désordre. Il y avait des journaux sur toutes les tables, des verres vides, et un photographe était occupé à faire sécher des épreuves sur le radiateur. L'inspecteur Leroy s'avança vers son chef. « C'est Madame Goyard, » dit-il à mi-voix, en désignant une femme grassouillette, affalée sur la banquette. Elle se levait, elle s'essuyait les yeux. « Dites, commissaire, est-ce vrai ? Je ne sais plus qui croire, il paraît que Jean est vivant. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas, qu'il ait joué cette comédie ? Il ne m'aurait pas fait ça. Il ne m'aurait pas laissé dans une pareille inquiétude. Il me semble que je deviens folle. Qu'est-ce qu'il serait allé faire à Paris ? Dites, et sans moi ?» Elle pleurait. Elle pleurait comme certaines femmes savent pleurer à grand renfort de larmes fluides qui roulaient sur ses joues, coulaient jusqu'à son menton, tandis que sa main pressait un sein charnu. Et elle reniflait. Elle cherchait son mouchoir, elle voulait parler par surcroît. « Je vous jure que ce n'est pas possible. Je sais bien qu'il était un peu coureur, mais il n'aurait pas fait ça. Quand il revenait, il me demandait pardon, comprenez-vous ? Ils disent... » Elle désignait les journalistes. « Ils disent que c'est lui-même qui a fait les taches de sang dans la voiture pour laisser croire à un crime. Mais alors, c'est qu'il n'aurait pas eu l'intention de revenir. » « Je sais, moi, vous entendez, je suis sûr qu'il serait revenu. Il n'aurait jamais fait la noce si les autres ne l'avaient pas entraîné, monsieur Le Pommeret, le docteur et le maire. Et tous qui ne me saluaient même pas dans la rue parce que j'étais trop peu de choses pour eux. » On m'a dit qu'il était arrêté. Je refuse de le croire. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal ? Il gagnait assez pour le train de vie que nous menions. On était heureux, malgré les bombes qu'il s'offrait de temps en temps. » Maigret la regarda, soupira, prit un verre sur la table, en avala le contenu d'un trait et murmura « Vous m'excuserez, madame. Il faut que j'aille dormir. » « Vous croyez, vous aussi, qu'il est coupable de quelque chose ?» « Je ne crois jamais rien. Faites comme moi. Demain est un autre jour. » Et il gravit l'escalier à pas lourds, tandis que le journaliste qui n'avait pas quitté l'appareil téléphonique tirait parti de cette dernière phrase. « Aux dernières nouvelles, c'est demain que le commissaire Maigret compte élucider définitivement le mystère. » Il ajouta d'une autre voix « C'est tout, mademoiselle. » « Surtout, dites au patron qu'il ne change pas une ligne à mon papier. Il ne peut pas comprendre. Il faut être sur les lieux. » N'ayant raccroché, il commanda en poussant son bloc-notes dans sa poche « Un grog, patron, beaucoup de rhum et un tout petit peu d'eau chaude. » Cependant, Madame Goyard acceptait l'offre qu'un reporter lui faisait de la reconduire. Et elle recommençait chemin faisant ses confidences. À part qu'il était un peu coureur, mais vous comprenez, monsieur, tous les hommes le sont. » Maigret était de si bonne humeur le lendemain matin que l'inspecteur Leroy osa le suivre en bavardant et même lui poser des questions. D'ailleurs, sans qu'on eût pu dire pourquoi, la détente était générale. Cela tenait peut-être au temps qui, tout à coup, s'était mis au beau. Le ciel semblait avoir été lavé tout fraîchement. Il était bleu, d'un bleu un peu pâle mais vibrant, où scintillaient de légères nuées. Du fait, l'horizon était plus vaste, comme si on eût creusé la calotte céleste. La mer, toute plate, scintillait, plantée de petites voiles qui avaient l'air de drapeaux épinglés sur une carte d'état-major. Or, il ne faut qu'un rayon de soleil pour transformer Concarneau. Car alors les murailles de la vieille ville, lugubres sous la pluie, deviennent d'un blanc joyeux, éclatant. Les journalistes en bas, fatigués par les allées et venues des trois dernières journées, se racontaient des histoires en buvant leur café. Et l'un d'eux était descendu en robe de chambre, les pieds nus dans ses mules. Maigret, lui, avait pénétré dans la chambre d'Emma, une mansarde plutôt, dont la fenêtre à tabatière s'ouvrait sur la ruelle et dont le plafond en pente ne permettait de se tenir debout que dans la moitié de la pièce. La fenêtre était ouverte. L'air était frais. Mais on y sentait des caresses de soleil. Une femme en avait profité pour mettre du linge à sécher à sa fenêtre. Dans une cour d'école, quelque part, vibrait une rumeur de récréation. Et le roi, assis au bord du petit lit de fer, remarquait « Je ne comprends pas encore tout à fait vos méthodes, commissaire, mais je crois que je commence à deviner. » Maigret le regarda de ses yeux rieurs, envoya dans le soleil une grosse bouffée de fumée. « Vous avez de la chance, vieux. Surtout en ce qui concerne cette affaire dans laquelle ma méthode a justement été de ne pas en avoir. Si vous voulez un bon conseil, si vous tenez à votre avancement, n'allez surtout pas prendre modèle sur moi ni essayer de tirer des théories de ce que vous me voyez faire. Pourtant, je constate que maintenant vous en arrivez aux indices matériels, après tout. Autrement dit, j'ai pris l'enquête à l'envers. Ce qui ne m'empêchera peut-être pas de prendre la prochaine à l'endroit. Question d'atmosphère. Question de tête. Quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur une tête qui m'a séduit et je ne l'ai plus lâchée. Mais il ne dit pas à qui appartenait cette tête. Il soulevait un vieux drap de lit qui cachait une penderie. Elle contenait un costume breton en velours noir qu'Emma devait réserver pour les jours de fête. Sur la toilette, un peigne, aux nombreuses dents cassées, des épingles à cheveux et une boîte de poudre de riz trop rose. C'est dans un tiroir qu'il trouva ce qu'il semblait chercher, une boîte ornée de coquillages brillants comme on en vend dans tous les bazars du littoral. Celle-ci, qui datait peut-être de 10 ans et qui avait parcouru Dieu sait quel chemin, portait les mots « Souvenir d'Ostende ». Il s'en dégageait une odeur de vieux carton, de poussière, de parfum et de papier jauni. Maigret, qui s'était assis au bord du lit près de son compagnon, faisait de ses gros doigts l'inventaire de menues choses.
Ganz maler, sol bajr i mal, jag bra ho, en butelj de rom. Avoa et jag, av en regler av sol, jag bra ho, en butelj de rom. Donc s'il veut appris le commandement des marins et mord la galère, il tient ses hommes comme il tient le vent, tout le monde a peur de son nom s'il veut. Car les marins sont pas eu du mal, y'a là-haut une bouteille de rhum, à boire le diable avait réglé la salle, y'a là-haut. Et bien le second du corsaire, le capitaine Flint en colère, est revenu du royaume des morts pour hanter la cache au trésor. 15 marins sont pas inimants, y'a là-haut une bouteille de rhum. A voir le diable avait réglé leur sort, y'a que là-haut une bouteille de rhum. Essaye un peu de contrecarrer, mais tu iras où tant d'autres sont allés. Quelques-uns au père, quelques-uns par support, tout le monde pour nourrir les potins d'abord. 15 marins sont pas inhumains, y'a là-haut une bouteille de rhum. À voir un diable avait réglé leur sort, y'a là-haut une bouteille de rhum. Essaye un peu de contrecarrer, Et tu y vas où tant d'autres sont allés. Quelqu'un au Berne et quelqu'un par Tibor. Tout le monde pour nourrir les requins d'abord. Casse-moi, sur le bail des morts. Yop là-haut, une bouteille de rhum. À boire, le diable avait réglé leur sort. Yop là-haut, une bouteille de rhum. Finiront par lancer la gigue, la corne au cou, au quai des pendus. Toi John Forrest et toi John Marig, si fait les chibets, j'en ai tout perdu. 15 marins sur le bahut du mort, diable là-haut, une bouteille de rhum. À boire, le diable avait réglé leur sort, diable là-haut, une bouteille de rhum.
Après l'intermède musical, nous revenons donc au roman de Georges Simenon, Le Chien Jaune.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Il y avait un chapelet aux boules de verre bleu, taillé à facettes. À la frêle chaînette d'argent, une médaille de première communion. Un flacon de parfum vide, qu'Emma avait dû garder à cause de sa forme séduisante et qu'elle avait peut-être trouvé dans la chambre d'une locataire. Une fleur en papier, souvenir d'un bal ou d'une fête, apportait une note d'un rouge vif. À côté, une petite croix en or était le seul objet d'un peu de valeur. Tout un tas de cartes postales. L'une représentait un grand hôtel de Cannes. Au dos, une écriture de femme. « Tu ferais mieux de venir ici que de rester dans ton sale trou où il pleut tout le temps. » Et on gagne bien, on mange tant qu'on veut, je t'embrasse. Louise. Maigret passa la carte à l'inspecteur, regarda attentivement une de ces photographies de foire que l'on obtient en tirant une balle au milieu d'une cible. Par le fait qu'il épaulait la carabine, on voyait à peine l'homme dont un œil était fermé. Il avait une carrure énorme, une casquette de marin sur la tête. Et Emma, souriant à l'objectif, lui tenait ostensiblement le bras. Au bas de la carte, la mention « Quimper ». Une lettre au papier si froissé qu'elle avait dû être relue maintes fois. « Ma chérie, c'est dit, c'est signé. J'ai mon bateau. Il s'appellera la belle Emma. Le curé de Quimper m'a promis de le baptiser la semaine prochaine, avec l'eau bénite, les grains de blé, le sel et tout. Et il y aura du vrai champagne, parce que je veux que ce soit une fête dont on parle longtemps dans le pays. Ce sera un peu dur au début de le payer, car je dois verser à la banque 10 000 francs par an. Mais pense qu'il porte 100 brasses carrées de toile et qu'il filera ses 10 nœuds. Il y a gros à gagner en transportant les oignons en Angleterre. C'est te dire qu'on ne tardera pas à se marier. J'ai déjà trouvé du fret pour le premier voyage, mais on essaie de me refaire parce que je suis nouveau. Ta patronne pourrait bien te trouver 2 jours de congé pour le baptême, car tout le monde sera saoul et tu ne pourras pas rentrer à Concarneau. Il a déjà fallu que je paie des tournées dans les cafés à cause du bateau, qui est déjà dans le port et qui a un pavillon tout neuf. Je me ferai photographier dessus et je t'enverrai la photo. Je t'embrasse comme je t'aime, en attendant que tu sois la femme chérie de ton Léon. Maigret glissa la lettre dans sa poche en regardant d'un air rêveur le linge qui séchait de l'autre côté de l'impasse. Il n'y avait plus rien dans la boîte, sinon un porte-plume en os, à travers lequel on voyait dans une lentille de verre la crypte de Notre-Dame de Lourdes. Il y a quelqu'un dans la chambre qu'occupait habituellement le docteur ? Questionna-t-il. Je ne pense pas. Les journalistes sont installés au second. Le commissaire fouilla encore la pièce par acquit de conscience, mais ne trouva rien d'intéressant. Un peu plus tard, il était au premier étage, poussait la porte de la chambre 3, celle dont le balcon domine le port et la rade. Le lit était fait, le plancher ciré. Il y avait des serviettes propres sur le broc. L'inspecteur suivait des yeux son chef avec une curiosité mêlée de scepticisme. Maigret, d'autre part, sifflotait en regardant autour de lui, avisait une petite table de chêne posée devant la fenêtre et ornée d'un sous-main réclame et d'un cendrier. Dans le sous-main, il y avait du papier blanc à en-tête de l'autel et une enveloppe bleue portant les mêmes mentions. Mais il y avait aussi deux grandes feuilles de papier buvard, l'une presque noire d'encre, l'autre à peine tacheté de caractères incomplets. « Allez me chercher un miroir, vieux. Un grand, peu importe un miroir, que je puisse poser sur la table. » Quand l'inspecteur revint, il trouva Maigret campé sur le balcon, les doigts passés dans les entournures du gilet, fumant sa pipe avec une satisfaction évidente. « Celui-ci conviendra ?» La fenêtre fut refermée. Maigret posa le miroir debout sur la table et à l'aide de deux chandeliers qu'il prit sur la cheminée, il dressa vis-à-vis la feuille de papier buvard. Les caractères, reflétés dans la glace, étaient loin d'être d'une lecture facile. Des lettres, des mots entiers manquaient. Il fallait en deviner d'autres trop déformés. « J'ai compris, dit le roi d'un air malin. Bon !» Alors allez demander au patron un carnet des comptes d'Emma, ou n'importe quoi écrit par elle. Il transcrivit des mots au crayon sur une feuille de papier. Te voir, heure, inhabité, absolument. Quand l'inspecteur revint, le commissaire, remplissant les vides avec approximation, reconstituait le billet suivant. J'ai besoin de te voir. Viens demain à 11h dans la maison inhabitée qui se trouve sur la place, un peu plus loin de l'hôtel. Je compte absolument sur toi. Tu n'auras qu'à frapper et je t'ouvrirai la porte. Voici le carnet de la blanchisseuse qu'Emma tenait à jour, annonça le roi. « Je n'en ai plus besoin, la lettre est signée, regardez ici. 2MA, autrement dit, Emma. » Et la lettre a été écrite dans cette chambre. « Où la fille de salle retrouvait le docteur ?» s'effara l'inspecteur. Maigret comprit sa répugnance à admettre cette hypothèse, surtout après la scène à laquelle, couchés sur la corniche, ils avaient assisté la veille. Dans ce cas, ce serait elle qui... Doucement, doucement, petit, pas de conclusion hâtive et surtout pas de déduction. À quelle heure arrive le train qui doit nous amener Jean Goyard ? 11h32. Voici ce que vous allez faire, vieux. Vous direz d'abord aux deux collègues qui l'accompagnent de me conduire le bonhomme à la gendarmerie. Il y arrivera donc vers midi. Vous téléphonerez au maire que je serai heureux de le voir à la même heure, au même endroit. Attendez, même message pour Madame Michou que vous toucherez téléphoniquement à sa villa. Enfin, il est probable que d'un moment à l'autre, les policiers ou les gendarmes vous amèneront Emma et son amant. Même destination, même heure. Est-ce que je n'oublie personne ? Bon, une recommandation. Qu'Emma ne soit pas interrogée en mon absence. Empêchez-la même de parler. Le douanier ? Je n'en ai pas besoin. Monsieur Mostaguen ? Non, c'est tout. Dans le café, Maigret commanda un mar du pays, qu'il dégusta avec un visible plaisir, tout en lançant aux journalistes « Cela se tire, messieurs. Ce soir, vous pourrez regagner Paris. » Sa promenade à travers les rues tortueuses de la vieille ville accrut sa bonne humeur. Et quand il arriva devant la porte de la gendarmerie, surmontée du clair drapeau français, il nota que l'atmosphère, par la magie du soleil, des trois couleurs, du mur ruisselant de lumière, avait une allégresse de 14 juillet. Un vieux gendarme, assis sur une chaise de l'autre côté de la poterne, lisait un journal amusant. La cour, avec tous ses petits pavés séparés par des traits de mousse verte, avait la sérénité d'une cour de couvent. Le brigadier ? Ils sont tous en route, le lieutenant, le brigadier et la plupart des hommes à la recherche du vagabond que vous savez. Le docteur n'a pas bougé. L'homme sourit en regardant la fenêtre grillagée du cachot à droite. Ah, il n'y a pas de danger. Ouvrez-moi la porte, voulez-vous ? Et dès que les verrous furent tirés, il lança d'une voix joyeuse, cordiale. Bonjour, docteur. Vous avez bien dormi, au moins. Mais il ne vit qu'un pâle visage en lame de couteau qui, sur le lit de Caen, émergeait d'une couverture grise. Les prunelles étaient fiévreuses, profondément enfoncées dans les orbites. « Alors quoi, ça ne va pas ?»« Très mal, » articula Michou en se soulevant sur sa couche avec un soupir. « C'est mon rein !»« On vous donne tout ce dont vous avez besoin, j'espère. »« Oui, vous êtes bien aimable. » Il s'était couché tout habillé. Il sortit les jambes de la couverture, s'assit, se passa la main sur le front. Et Maigret, au même moment, enfourchait une chaise, s'accoudait au dossier, éclatant de santé et d'entrain. Cette lecture est terminée pour ce soir, et nous nous retrouverons donc demain pour la suite du roman de Georges Siménon, Le Chien Jaune. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.